Vous êtes sur RTL.
7h-9h30, RTL Matin, Yves Calvi.
8h40, notre revue de presse, Amandine Bégaud, et on commence ce matin, Amandine, avec une photo.
Oui, une photo complètement dingue qui fait la une du New York Times. Elle avait été publiée ces derniers jours dans La Croix et dans Le Figaro. Cette photo, c'est celle de ces embouteillages au sommet de l'Everest. Plus de 300 personnes qui font la queue, serrées les uns contre les autres pendant des heures. Tout ça à plus de 8000 mètres d'altitude. On se croirait dans un zoo. C'est effrayant, se désole un médecin américain qui toute sa vie a rêvé de gravir le plus haut sommet du monde. Une fois arrivé sur place, il raconte avoir été choqué par ce qu'il a vu, ces grimpeurs qui se bousculent pour prendre des selfies à 15-20 sur la partie plate du sommet qui n'est pas plus grande que deux tables de ping-pong. Ed Doering explique aussi, et c'est sans doute le plus terrifiant, avoir dû contourner le corps d'une femme qui venait de mourir. Oui, car c'est là tout le problème. Au-delà de la foule, cette saison a été l'une des plus meurtrières sur l'Everest. Au moins 11 morts, 10 en une semaine. Certains, explique le New York Times, attirés par l'appât du gain, n'hésitent plus à emmener avec eux des alpinistes complètement inexpérimentés. Même chose pour le gouvernement népalais qui, d'après les spécialistes, délivre bien plus de permis d'ascension qu'il n'en devrait. Or, dans cette zone, qu'on appelle la zone de la mort, les conditions sont extrêmement difficiles. À plus de 8000 mètres d'altitude, l'oxygène se fait très vite rare, sans compter les risques de gelure. Le moindre retard, une ou deux heures d'attente, est fatal. Pire encore, le sauvetage est là-bas devenu un véritable business. L'an dernier, rappelle le journal, des alpinistes chevronnés avaient dénoncé un complot de grande envergure. Des guides, des entreprises d'hélicoptères, mais aussi des hôpitaux, avaient trouvé le moyen d'empocher des millions de dollars auprès de compagnies d'assurance. Comment ? En évacuant des randonneurs présentant des signes mineurs de maladie de l'altitude. C'est complètement fou. Le New York Times, qui, comme la plupart de nos journaux ici en France, revient ce matin sur ces élections européennes de dimanche. Quelle gauche après ça, se demande ce matin l'Humanité. La Croix, de son côté, a remplacé le bleu du drapeau européen par du vert. Clin d'œil, vous l'aurez compris, à la percée des écologistes. Quant à l'Opinion, il nous propose ce matin, pour analyser ce scrutin, une version revue et corrigée des trois petits cochons. C'est très amusant et vous allez voir assez clair. Emmanuel Macron, écrit le journal, a soufflé sur la maison de paille du PS. Elle s'est effondrée. Il a secoué celle des Républicains. Elle a fini par s'écrouler. Rien ne dit que la bâtisse des écolos sur laquelle lorgne désormais le chef de l'État ne soit faite de briques. D'autant, conclut le journal, qu'ils sont désormais nombreux au sein de la majorité à vouloir pousser le curseur sur les questions environnementales. Le Maine Libre, lui, nous raconte ce matin l'histoire de Michel, 49 ans, qu'elle vit dans la même commune, dans la même maison. À chaque élection, elle est assesseur, aide au dépouillement et pourtant, elle n'a pas pu voter dimanche. Lorsqu'elle se présente au bureau de vote à 14h45 avec sa carte d'identité et son ancienne carte d'électeur, personne ne la trouve sur les listes. La Sartoise a purement et simplement été rayée des fichiers en cause, explique le journal, un bug lié à la mise en place du répertoire électoral unique géré par l'INSEE. Michel n'est pas la seule dans ce cas. À Marseille, ce sont plus de 5000 personnes qui seraient concernées. C'est ce qu'indique le site du Huffington Post. Enfin, à propos d'élections, un petit rappel, il n'y aura pas de second tour. Dimanche, les européennes, c'est une élection à un tour. Les candidats l'ont rappelé à de multiples reprises pendant la campagne. Mais visiblement, le message n'est pas vraiment bien passé. Preuve en est, ce constat lu sur le site de BFM TV dimanche, quand on tapait « européenne » sur Google, la recherche deuxième tour des élections européennes arrivait parmi les toutes premières recherches, en hausse de 180% devant la recherche concernant les résultats eux-mêmes. Il y a en revanche une date que vous pouvez tous noter sur votre agenda. Le 7 juin, coup d'envoi de la Coupe du Monde de football féminin. Plus que 10 jours donc pour vous y préparer et pour vous y aider. Je vous conseille ce hors-série du journal de Mickey en partenariat avec l'équipe. Alors en théorie, vous allez me dire, c'est pour les enfants, mais franchement, volez-leur. Vous y trouverez plein d'infos, d'anecdotes pour faire le malin. C'est pas moi qui le dis, mais le journal. Est-ce que vous savez par exemple, Yves, combien il y a eu d'éditions de la Coupe du Monde de foot féminin ?
3.
7.
Bien.
Combien d'équipes ont disputé ces 7 éditions ?
3.
7 aussi. Les États-Unis, l'Allemagne, la Norvège, le Japon, la Suède, le Nigeria et le Brésil. La France, elle participe cette année à son 4e mondial. Est-ce que vous savez qui l'a le plus souvent emporté ?
Ça, c'est
plus
facile. Les États-Unis,
normalement.
C'est 3.
3 fois, exactement. Les Américaines, d'ailleurs, n'ont jamais fait moins bien que la 3e place. Enfin, allez, une petite dernière question pour la route. Est-ce que vous savez quel a été le plus gros écart de but entre deux équipes sur un match ?
Une dizaine. 3.
Une dizaine, mais vous n'êtes pas loin, Yves. 11 à 0, c'était en 2007. C'est sur ce score que les Allemandes avaient pulvérisé les Argentines lors du match d'ouverture. On en souhaite autant aux Françaises, hein, car ce sont elles, on le rappelle, qui donneront le coup d'envoi de ce mondial. Ce sera donc le 7 juin, notez bien.
Vous avez tout à fait raison, et c'était la revue de presse d'Amandine Bégaud.